Journal qui vous est présenté par Anne Fauquemberg. Bonsoir.
Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Au Japon, Shinzo Abe promet la fermeté face à la Corée du Nord. Le Premier ministre a largement remporté l'élection législative anticipée aujourd'hui. Il compte poursuivre la réforme controversée de la Constitution pacifique. Précision de Frédéric Charles au début de ce journal. Au Royaume-Uni, l'opposition travailliste menace de nouveau de s'allier à la fronde des conservateurs contre le projet de loi de retrait de l'Union européenne. Les députés du Labour exigent un vote final devant le Parlement. Analyse à suivre de notre correspondant. Correspondante Aude Soufi. À Berlin, plusieurs milliers de personnes ont manifesté contre l'entrée du parti d'extrême droite AFD au Parlement ce mardi. Le récit de Pascal Thibault dans un instant. En France, la CGT orpheline de son ancien secrétaire général, Louis Vianney. Philippe Martinez, l'actuel dirigeant du syndicat, a choisi l'image du rassembleur pour lui rendre hommage. Nous l'entendrons. Au sommaire de dimanche et après, Julie Gacon.
L'affaire Weinstein a libéré la parole, dit-on, au sujet de tous les témoignages de harcèlement sexuel qu'ont livré les femmes sur les réseaux sociaux. Mais comment ont réagi les hommes à ces accusations? Comment se composent et recomposent les discours mâles sur ces questions? Nous en parlerons avec nos trois invités, l'anthropologue Mélanie Gourarier, la chercheuse Marion Charpenel et le politologue Francis Dupuis-Derry.
Merci Julie. Et avant de vous retrouver à 18h15, le reportage de Marine Vlaovic aux journées du cinéma de Ramallah. Les réalisatrices palestiniennes dominent dans le 7e art. Au Japon, le Premier ministre Shinzo Abe remporte donc son pari à l'issue des législatives anticipées. Il remporte un nouveau mandat de 4 ans. C'est une large victoire qui a été obtenue par sa coalition de droite. Il remporterait les 2/3 des voix à la Chambre basse. Shinzo Abe a immédiatement promis la fermeté envers la Corée du Nord. Frédéric Charles, le Premier ministre, semble avoir désormais les coudées franches pour réformer la constitution pacifiste face aux menaces de Pyongyang.
Cette victoire offre à Shinzo Abe 4 années de pouvoir supplémentaires pour tenter de réviser la constitution pacifiste, écrite d'une main américaine à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il veut rendre au Japon, dit-il, toute sa grandeur et toute sa souveraineté, en révisant l'article 9 de la constitution qui interdit au Japon le recours à la guerre pour résoudre des conflits. Shinzo Abe a déjà réinterprété la constitution pour permettre une plus grande intégration de l'armée japonaise dans la stratégie américaine. Depuis 5 ans, Shinzo Abe tente de persuader les Japonais d'accepter une révision, en vain jusqu'ici, malgré les tirs de missiles nord-coréens. Car dans leur majorité, les Japonais tiennent à leur constitution, car dans le domaine de la sécurité, ils ne font pas confiance à leurs dirigeants.
Correspondance à Tokyo, signée Frédéric Charles. Au Royaume-Uni, l'opposition travailliste exige de nouveau un vote final au Parlement avant de valider l'accord sur le Brexit qui sera trouvé avec Bruxelles. Ce sont les parlementaires et non pas les ministres qui auront le dernier mot pour approuver ou non l'accord de sortie de l'Union européenne. Déclaration de Keir Starmer, référent de son parti sur le sujet dans le Sunday Times. Et si ce n'est pas le cas, le Labour menace de se joindre à la fronde des conservateurs, Aude Soufi.
C'est un débat qui agite la classe politique britannique depuis déjà des mois. Le projet de loi de retrait de l'Union européenne, appelé ici le Great Repeal Bill, permettrait dans sa forme actuelle d'élargir considérablement les pouvoirs du gouvernement. Il pourrait ainsi modifier les lois issues de textes européens sans contrôle du Parlement. Qualifié de coup de force de l'exécutif et même de monstruosité par certains députés conservateurs, ils ont déposé des amendements et menacent de ne pas voter le texte. Et ce sont donc désormais les travaillistes qui montent au créneau. Keir Starmer, le monsieur Brexit de l'opposition, exige du gouvernement qu'il soumette l'éventuel accord final de sortie de l'Union européenne au vote du Parlement. Sinon, dit-il, ils s'allieront avec ses frondeurs conservateurs pour faire échouer le projet de loi. Pour le gouvernement de Theresa May, la menace est réelle puisqu'elle n'a plus la majorité absolue au Parlement depuis le mois de juin. Et les travaillistes comptent bien en profiter, d'autant que la Première ministre est revenue fragilisée du sommet européen de Bruxelles vendredi, où ses partenaires lui ont fait comprendre qu'il fallait faire davantage d'efforts pour obtenir un accord sur le Brexit. L'exécutif a 2 semaines de plus pour inciter les députés rebelles à rentrer dans le rang puisque l'examen du Great Repeal Bill a été opportunément repoussé. Les Tories savent qu'une révolte en leur sein pourrait leur coûter cher, elle pourrait les priver du pouvoir, mais c'est aussi précisément ce qui devrait pousser les frondeurs à faire des concessions pour maintenir leur parti à la tête du pays.
Analyse depuis Londres, signée Aude Soufi. En Allemagne, alors que la chancelière Merkel entame les premières discussions pour former une coalition avec les libéraux du FDP et les Verts, des milliers de personnes ont défilé dans les rues de Berlin cet après-midi. Des citoyens toujours sous le choc après la percée du parti d'extrême droite AfD au Parlement le mois dernier. Pascal Thibault.
Notre alternative, c'est la solidarité. Sur les affiches portées par de nombreux manifestants devant la porte de Brandebourg, 10 000 d'après la police, la référence était claire. Deux jours avant la première session du nouveau Bundestag, il s'agissait de protester contre l'entrée de l'alternative pour l'Allemagne, le parti populiste de droite au Parlement allemand. Le 24 septembre dernier, l'AfD a recueilli 12,6% des voix et plus de 90 sièges, devenant la troisième force au Bundestag du jamais vu en Allemagne depuis la guerre. La manifestation d'aujourd'hui a été initiée par un étudiant d'origine turque arrivé en bas âge en Allemagne avec sa famille qui demandait l'asile politique. Ali Khan propose depuis 2 ans à des compatriotes séduits par l'AfD ou les idées d'extrême droite de répondre à leurs inquiétudes par téléphone. Je voulais avec cette manifestation montrer que cette Allemagne diverse que j'ai appris enfant à aimer est toujours prête à se mobiliser. Un autre responsable d'une des nombreuses organisations qui ont appelé à manifester est plus direct et déclare « Levez-vous lorsque la haine prend place sur les bancs du Parlement ». L'AfD a dénoncé en amont la manifestation de ce dimanche, la qualifiant d'attaque contre la démocratie et parlant d'une discrimination inacceptable contre des députés librement élus. Le parti reste totalement isolé et la classe politique allemande cherche encore comment se positionner face à cette nouvelle force, notamment au Parlement, où les débats pourraient, durant les 4 prochaines années, être plus polémiques.
Pascal Thibault, le correspondant de RFI pour France Culture depuis Berlin. Manifestation également sur la petite île de Malte cet après-midi. Des milliers de citoyens sont sortis dans les rues de leur capitale, La Valette. Le pays est toujours bouleversé, quasiment une semaine après l'assassinat de la journaliste Daphne Caruana Galizia, reporter et blogueuse qui a enquêté sur des scandales de corruption. Il avait été l'un des principaux instigateurs des grandes grèves de 1995 contre le plan Juppé. L'ancien secrétaire général de la CGT, Louis Vianney, est mort la nuit dernière à l'âge de 84 ans, annonce le syndicat. Syndicat qu'il avait dirigé de 1992 à 1999. Louis Vianney avait profondément transformé la CGT en coupant les ponts avec le Parti communiste et en rejoignant notamment la Confédération européenne des syndicats. Philippe Martinez, l'actuel secrétaire du syndicat, garde l'image du rassembleur.
Il a joué un rôle important dans le sens où il a essayé d'élargir la mobilisation, prôner l'unité syndicale. Hein, tout le monde a en tête la poignée de main historique entre Louis Vianney et Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière à l'époque. Je crois que c'est l'expression du travail de Louis dans la CGT, une CGT ouverte, une CGT qui se voulait rassembleuse de l'ensemble du monde du travail. Louis, c'était le sens des autres, c'est-à-dire qu'un dirigeant tourné vers les militants, vers les syndiqués et les salariés. Moi, je le connaissais depuis très longtemps, quand j'étais responsable chez Renault, et c'est quelqu'un qui était très à l'écoute dans des moments difficiles, je pense au moment de la fermeture de Vilvoorde chez Renault, et encore ces derniers temps, tout en restant à sa place, c'est quelqu'un qui était précieux pour donner son avis.
Des propos recueillis par nos confrères de France Info. La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, compte se tourner vers l'hôpital public pour réduire une partie du déficit de la sécurité sociale. Elle l'explique dans le journal du dimanche. La ministre estime que les hôpitaux pourraient économiser 1 milliard d'euros en mutualisant certaines dépenses comme l'achat de médicaments. Agnès Buzyn, anciennement médecin et professeur en hématologie, a aussi ajouté sa voix au débat en cours sur le harcèlement sexuel. J'ai eu affaire à des comportements très déplacés dans mon ancien milieu professionnel, a-t-elle déclaré. Pour faire évoluer ces comportements, nous explorons ce soir la piste de l'école. Sylvie Cromer est sociologue à l'Université de Lille 2. Ses recherches portent sur les représentations sexuées et les violences faites aux femmes. L'école est, selon elle, encore très en retard.
Les recherches portées par les études de genre démontrent que le désir d'égalité que peuvent avoir certains et certaines ne subvertit pas pour autant la mise en œuvre d'une éducation différentielle. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on continue à fabriquer des filles et des garçons. Alors, on peut citer quelques exemples, par exemple les représentations inégalitaires qui circulent dans les manuels scolaires ou la littérature de jeunesse, les attentes et les injonctions qui sont différenciées envers les filles et les garçons, sont en matière d'occupation de l'espace, par exemple la cour de récréation, de jouets ou de loisirs, qui vont construire des aptitudes et des expériences de vie qui vont pas conduire les enfants aux mêmes places, dans les mêmes statuts, avec la même légitimité. Ainsi, on va se rendre compte que petit à petit, mine de rien, la construction de différences des sexes, notamment à l'école, mais bien sûr, évidemment aussi dans la famille, naturalise des inégalités. Et la violence est la conséquence de ces inégalités et un outil aussi pour maintenir ces inégalités. Il faut vraiment donc qu'il y ait un projet politique ambitieux et courageux concernant la question de l'égalité à l'école et concernant la question d'une éducation égalitaire.
Des propos recueillis par Sarah Petitbon. Bonsoir Marion Charpenel.
Bonsoir.
Vous êtes docteur en sciences politiques, spécialiste sur les questions de genre. Comment vous expliquez ces freins au sein même de la communauté éducative ?
Je pense que les professionnels de l'éducation sont comme nous tous et leurs attitudes sont donc le produit d'une socialisation genrée et donc le produit d'un apprentissage précoce et continu qui fait que tout ceci est très incorporé profondément. Donc pour que les choses évoluent, il faut trois choses. Il faut d'abord l'identification d'un problème, une prise de conscience, et ça je pense que effectivement les études de genre ont permis cette prise de conscience, mais ensuite il faut que leur vision du monde évolue et puis ensuite que leur pratique évolue. Et donc, ça prend du temps, c'est normal. C'est pour ça aussi qu'il est important que dans les écoles interviennent pas seulement des professionnels de l'éducation, mais aussi des professionnels de la lutte contre les violences, de l'éducation à la sexualité, pour justement apporter leur expertise auprès des enfants et faire en sorte que les stéréotypes sexués et sexistes sur lesquels reposent les violences disparaissent, évoluent.
Merci Marion Charpenel. Nous vous retrouvons en direct avec Julie Gacon à 18h15 dans Dimanche et Après. Les réalisatrices palestiniennes sur le devant de la scène au Proche-Orient, en Cisjordanie, se déroulent jusqu'à demain les journées du cinéma. Dans cette zone de conflit dépourvue de salles obscures, c'est aussi l'occasion de projeter des films. Et parmi ces longs et ces courts-métrages, de plus en plus sont réalisés par des femmes issues de ces territoires palestiniens. Les palestiniennes qui sont d'ailleurs aujourd'hui nommées dans les festivals internationaux, distinguées par de nombreux prix. Le reportage de notre correspondante Marine Vlaovic-Aramala.
Chaque année, elles sont de plus en plus nombreuses à passer derrière la caméra. Les réalisatrices palestiniennes sont désormais sur le devant de la scène. Ce phénomène ne surprend pas Brigitte Boulade, l'une des organisatrices des journées du cinéma dans les territoires palestiniens.
Dans ces pays de l'extrême, elles ont une part de choses à affronter quotidiennes qui est différente du reste du monde.
J'irai danser si je veux, ou encore 3000 nuits. En 2017, les films à succès palestiniens ont été réalisés par des femmes. La réalisatrice Anne-Marie Jassir est une pionnière de ce cinéma d'auteur au féminin, favorisé selon elle par le contexte politique et donc culturel.
Parce que nous avons tous débuté ensemble, il n'y avait pas d'industrie du cinéma ici. Et contrairement à des systèmes déjà établis où les femmes sont traditionnellement exclues, je suis à égalité avec mes confrères masculins.
Et pas question pour la cinéaste de se cantonner aux problématiques dites féminines. Son dernier film, Wajib, c'est-à-dire L'Obligation, est un doux drame familial où l'on suit un père et son fils pendant une journée.
C'est aussi basé sur une tradition masculine, celle d'apporter les invitations pour un mariage. Dans la société palestinienne, ce sont les hommes qui font la tournée des maisons pour donner ces invitations. C'est un film construit sur les dialogues, mais ça parle plus de ce que les hommes ne se disent pas entre eux.
Wajib, qui sera dans les salles françaises en février prochain, a été sélectionné pour représenter la Palestine aux Oscars.
Le reportage de notre correspondante à Ramallah, Marine Vlaovic. Avant de détailler la météo de demain, lundi 23 octobre, deux violents incendies se sont déclarés ce matin en Haute-Corse. Le service départemental de secours et d'incendie recense 400 hectares partis en fumée. Les flammes sont attisées par un très fort vent de sud-ouest avec des rafales jusqu'à 100 km/h. Le temps demain sera toujours gris et humide au nord, plus sec et ensoleillé au sud. Des précipitations à prévoir du Grand Est jusqu'aux Alpes du Nord, en Bretagne et en Normandie. Les températures restent fraîches au réveil. 9 à Strasbourg, 12 à Lille, Paris et Lyon, 14 à Bordeaux, 15 à Brest et jusqu'à 17 à Marseille. Ce journal a été préparé avec Caroline Beneteau.